Très peu de personnes ont abordé le sujet de l'éveil par mimétisme, surtout parce qu'il faut l'avoir vécu dans son expérience pour pouvoir en parler. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs en spiritualité commencent par se procurer des livres. Ainsi, la première approche commence par l'intellect. Or, l'intellect est l'outil le moins adapté pour atteindre un éveil, comme nous le verrons plus loin. Autrefois, l'enseignement se faisait directement auprès d'un être éveillé, souvent éloigné et caché des masses, dans la nature ou dans un centre fermé. Aujourd'hui, la pseudo-spiritualité est envahie par l'argent et par des enseignants non éveillés, socialement acceptés et diplômés. Revenons à l'origine de l'éveil avec des détails connus sur la vie de Gautama Buddha. Lorsqu'un élève était accepté par Gautama, il rejoignait la communauté de ses élèves, jusqu'à 7000 personnes parfois, et il lui était demandé de ne poser aucune question durant les deux premières années. Il devait simplement se tenir en silence et adopter le mode de vie de la communauté. Ainsi, lorsque Gautama méditait, tous méditaient. Lorsqu'il allait se baigner à la rivière, tous faisaient de même. Lorsqu'il mangeait ou jeûnait, tous ses élèves mangeaient ou jeûnaient. Et ainsi chaque jour indéfiniment. Gautama gardait une certaine distance sans familiariser. La transmission de l'éveil, ce qu'en Inde l'on appelle le Shaktipat, par transmission énergétique, cela se faisait donc par mimétisme. Le fait de copier le mode de vie d'un éveillé est un abandon immédiat du libre-arbitre. Si en tant que membre de cette communauté, vous décidiez par vous-même que faire, vous étiez immédiatement hors-jeu. Bien sûr, Gautama enseignait aussi verbalement, mais ce n'était pas le vrai enseignement. Le vrai enseignement est par l'énergie du maître que vous receviez avec l'abandon total de votre libre arbitre. Et c'est à cette condition que l'éveil pouvait arriver. C'était le cas pour un certain nombre, avec des éveils différents en fonction des personnes. Chaque jour, Gautama faisait un discours. Cependant, une fois il lui arriva de rester silencieux, tout en regardant une fleur de lotus dans ses mains. La plupart de ses disciples attendaient étonnés, et seul un élève se mit à rire au bout d'un moment. C'est à lui que Gautama donna la fleur, symbole d'éveil. Cet élève alla plus tard au Japon pour créer à son tour une nouvelle communauté mimétique. Vivre le mimétisme de Gautama semble à première vue un jeu agréable, une expérience unique, jamais retentée à cette échelle depuis les temps reculés de Krishna. Mais au bout d'une seule semaine, peut-être qu'un sentiment de révolte naîtrait en vous. Vous seriez comme dans une prison à ciel ouvert. Même la sexualité et les couples valaient une exclusion. De même sans doute avec l'argent, la communauté vivant seulement de dons, nombreux à cette époque. Il faut vraiment ressentir l'amour vibratoire de l'éveillé pour pouvoir s'en nourrir et abandonner l'ego. Mais l'erreur à ne pas commettre est d'idolâtrer le guide sans ressentir cette énergie impersonnelle à travers lui. Mais réussir l'abandon de l'ego, le fait de ne plus exister en tant que personne indépendante, d'avoir abandonné tous les désirs existentiels, l'argent, l'attachement humain et en particulier celui des liens du sang, de faire partie d'une fraternité aimante et joyeuse, cela peut devenir addictif, avant de devoir retourner dans le monde, avec ou sans éveil. Car ce type de vie en communauté n'est pas destiné à durer toute une vie. Le but est bien l'éveil. Ensuite, les nouveaux éveillés, s'il y en a, retournent dans le monde et continuent le même processus avec de nouveaux élèves. Tant qu'une personne reste dans l'intellect, qui n'existe que par la mémoire du passé et les projections futures, passé et futur étant des illusions hors de la grande vague du présent éternel, cette personne n'est pas dans la réceptivité et la pleine conscience nécessaire auprès d'un éveillé. Aussi, l'ego ou personnalité humaine ne peut plus exister temporairement si chaque élève ne décide plus rien par lui-même. Finalement, l'éveillé entraîne ceci dans l'immortalité de l'instant présent et qui s'abandonne sincèrement à lui, sans idolâtrie ni familiarité, aura l'éveil avec quasi-certitude. C'est une question d'une poignée ou d'une infinité de jours et de nuits en sa présence. Cela paraît simple pour un oriental, mais ce l'est bien moins pour un occidental, à qui sa société a tout fait pour valoriser la personnalité. Vous avez remarqué que la première chose qu'une société naissante produit, c'est un calendrier. Jour de la semaine, jour du mois, année, l'ego collectif se construit et se complexifie sur cette illusion. Un éveillé n'existe plus au monde, il a disparu dans la vague immortelle du présent. Je ne dis pas que la personnalité humaine est mauvaise au départ. Elle est même nécessaire, indispensable, et doit être bien construite et heureuse, avec des réalisations de vie, pour être abandonnée ensuite. Un enfant, par exemple, doit bien construire sa personnalité. C'est comme une sculpture, une œuvre d'art. Une belle personnalité va attirer beaucoup de monde autour d'elle par ses réalisations et par son caractère très sociable et vertueux. Une personnalité en souffrance, inachevée, complexe et emplie de colère, de désirs non réalisés, reste seule et n'intéresse personne. Le monde en est rempli, car les sociétés ultralibérales modernes en ont besoin pour faire tourner la machine économique. Seule une personnalité accomplie et courageuse est capable de démissionner d'une carrière pour rejoindre un éveillé, car l'ego tombera alors comme un fruit mûr. Un ego compliqué et en souffrance est donc comme un fruit vert, inachevé, et il ne peut absolument pas rejoindre une telle communauté. Vous comprenez pourquoi la société humaine, le grand ego collectif, se méfie des éveillés. Du temps de Gautama, il y a donc 2500 ans, il n'y avait pas d'État centralisé, seulement des petits royaumes dans l'Inde du Nord, avec des gens de pouvoir éclairés. Ils venaient même s'inspirer auprès de Gautama, et était généralement très accueillant pour son groupe. Un jour, un de ses rois vint lui rendre visite et lui dit « Je t'offre la moitié de mon royaume si tu restes auprès de moi. » Gautama lui répondit qu'il avait déjà été prince lui-même et qu'il avait donc renoncé au trône de son père et qu'ainsi il ne pouvait accepter cette offre même pour la totalité. Il n'y a eu que les brahmanes indiens pour ne pas accepter son enseignement. C'est donc l'hindouisme ayurvédique qui a rejeté Gautama en Inde et son enseignement s'est développé plutôt en Chine et ensuite au Japon. Un jour, quelqu'un posa cette question à Gautama. Le soi divin, existe-t-il? Et il répondit sans répondre, de façon à ne pas entretenir l'ego. Le soi divin existe et il n'existe pas. Ou plus précisément, il est existence et non-existence à la fois, c'est-à-dire manifesté et non-manifesté, le sens qu'il fallait comprendre. Après la disparition de Gautama à 80 ans, suite à 45 ans d'enseignement, la communauté restée seule discuta sans fin sur cette réponse énigmatique, avant de finalement se disperser. Il est certain qu'ils décidèrent que c'est la fin de l'affirmation qui était importante. Il n'existe pas. Le soi n'existe pas. C'est ainsi que toutes les branches du bouddhisme ne reconnaissent pas l'existence du soi divin. Jésus, de son côté, 500 ans plus tard, évoque aussi l'abandon. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui fait la volonté de son Père céleste à travers lui, celui-là aura la vie éternelle. Et cette autre citation, « Ne soyez plus emplis de vous-même, soyez emplis du divin. » Jésus demande notamment à un homme riche de donner ses biens aux pauvres pour le suivre ensuite. Bien sûr, comme je l'ai dit, si l'ego n'est pas mûr pour s'abandonner, il doit rester dans le monde extérieur. Celui qui vit seulement par les sens extérieurs et en est l'esclave, se prépare un chemin de frustration et de souffrance. Du temps de Jésus, contrairement à celui de Gautama, il existait un état centralisé, colonial et cruel. Je veux parler de l'Empire romain et son procurateur local, Ponce Pilate, sans parler des prêtres hébreux jaloux et hostiles. Ainsi, Jésus n'eut pas le temps de mettre en place une communauté spirituelle. Sa magnifique et courte mission divine étant de montrer la réalité de la résurrection et de l'ascension après le supplice en public. Si vous lisez les Actes des apôtres dans le Nouveau Testament, vous apprendrez comment la communauté s'est construite après l'ascension de Jésus. Les 11, qui avaient remplacé Judas par Matthias, par tirage au sort, avec le soutien de Marie et de Marie-Madeleine, ont commencé une nouvelle communauté de 120 personnes, au départ, dans le petit village de Béthanie. La vie y était très simple et très discrète. Marie-Madeleine et Marie confectionnaient des onguents parfumés pour les visiteurs, qui avaient souvent les pieds abîmés après de longs trajets. C'est par la suite que Marie-Madeleine fut surnommée la Sainte Baume en France, lorsqu'elle s'installa autour d'une grotte refuge près de Marseille. Cette première communauté rapidement passa à 3000 personnes. Et nous lisons qu'une organisation mimétique se met en place, où les biens personnels et surtout l'argent sont interdits. Tous ne forment plus qu'un seul être commun, autour des 12 éveillés. Mais il n'a jamais été question, là aussi, de remplacer des éveillés par une prêtrise de non-éveillés. D'autant plus que Jésus avait été capturé et livré aux Romains par des prêtres non-éveillés et jaloux. Une autre anecdote intéressante provient de l'entourage de Mikhaïl Omram Ivanov. C'est une artiste peintre qui me l'a racontée vers la fin de sa vie. Elle vivait dans le rayonnement et l'amour de ce maître disparu en 1986. Omram aimait beaucoup les représentations du soleil Hélios. Et justement, cette femme artiste peignait le soleil dans toutes ses toiles. Aussi, dans la communauté du sud-est de la France, où elle venait d'arriver, elle eut le droit à une caravane tout près du lieu de vie du maître. Or, bien des élèves qui étaient là depuis des années n'avaient pas d'aussi bon emplacement. Omram devait apprécier de voir ses peintures et donc l'avait rapproché. Par contre, certains anciens ne devaient pas être très créatifs, malgré le fait qu'ils devaient certainement suivre à la lettre les consignes de vie dans ce centre spirituel. Ces personnes n'avaient tout simplement rien à apporter au maître, qui préférait donc la compagnie de cet artiste. Cette dernière s'est faite entièrement rejeté par ceux qui ne pouvaient pas accepter ce privilège fait à une nouvelle arrivante. Cela a révélé la jalousie égotique des soi-disant dévots pour une place de caravane plus proche de leur dieu. C'est souvent un jeu pour un éveillé de discréditer ceux dont l'ego prend une apparence de dévot avec un mimétisme de façade depuis des années, en mettant sur un piédestal un nouvel arrivant qui apporte quelque chose de neuf et de divin qu'il a expérimenté par lui-même. Ainsi, la créativité est une des qualités divines les plus belles dans l'être humain aspirant à l'éveil. C'est la porte ouverte de très belles surprises. Aujourd'hui, cette technique de mimétisme n'est plus vraiment possible avec le mode de vie occidental. La société moderne a entièrement rejeté l'éveil de masse et impose de dénoncer toute pratique de destruction volontaire de la personnalité égo. Il n'y a que dans les écoles militaires, que l'on retrouve ce mode d'apprentissage dévié par des exercices collectifs incessants de jour comme de nuit. Comme je l'ai dit, il ne peut y avoir aucune familiarité dans le processus de mimétisme. Pensez à Gautama allant seul à la rivière, suivi à quelque distance par ses élèves. À noter que le nombre de ceux-ci était issu de la classe guerrière comme lui, et non pas des brahmanes craintifs. Car pour s'abandonner ainsi, c'est réellement mourir au monde, un renoncement de libre arbitre. Et pour cela, il faut le courage du guerrier, qui n'a pas peur de la mort durant un combat rapproché. Donc, la familiarité est nuisible, car sinon des transferts d'énergie karmique vers l'éveillé sont certains. La flamme du cœur aspire et consume les énergies discordantes proches, mais pas toujours instantanément. L'éveillé doit en subir les effets quelques heures durant, comme par exemple des vertiges, suite à une perturbation de la flamme de la tête, ou bien des douleurs physiques. Ainsi, en maintenant le silence et une distance à cause des lignes de force mentale et émotionnelle qui rayonnent des corps humains, ces effets secondaires peuvent être évités. Le danger pour les non-éveillés serait de tomber sur un faussaire qui n'a pas d'éveil. Et ma vidéo précédente donne la façon de les détecter. Je n'y reviendrai donc pas. Le problème des faussaires, c'est qu'ils font des petits, qui à leur tour prétendent libérer autrui de l'ego. C'est un orgueil spirituel qui se paye très cher karmiquement parlant. Évoquons maintenant la nouvelle méthode proposée par les maîtres ascensionnés. Vous avez remarqué que l'enseignement originel des maîtres ascensionnés, et dont fait partie la pratique de la flamme violette, comporte de nombreux discours. Il y a vraiment là une profusion de messages. Il faut même environ 2 ans pour tout étudier et mettre en pratique. Cela n'est pas dû au hasard. Ces maîtres ascensionnés savent bien que l'ancienne méthode du mimétisme est bien trop dangereuse et rarement efficace. Aussi les maîtres immortels préfèrent aujourd'hui que nous étudions chacun de notre côté, directement en relation avec eux. Car vous avez remarqué que dès que vous lisez leurs paroles, leurs conseils de vie pratique, un flot de lumière se déverse en vous, comme un éveillé pourrait le faire, et même mieux, puisqu'ils ont gagné l'immortalité, alors qu'un éveillé humain est donc toujours dans un corps mortel, est susceptible d'être vénéré en tant que personne et interprété de travers. C'est ainsi que se produit le nouveau mimétisme que vous demandent les maîtres, directement chez vous et sans aucun risque de devoir vous cacher dans la nature ou dans une grotte. Vous vivez donc une période impensable par le passé, où tout, maintenant, vous est donné directement. Mais de la même manière, vous pouvez abandonner l'ego en laissant cette lumière agir en vous progressivement, et en testant et pratiquant leurs conseils dans les détails de votre vie. Mais cela demande toujours un courage du guerrier, pour renoncer au libre arbitre, en développant avec joie l'écoute intérieure, même pour décider des banales activités quotidiennes. Ce qu'il est nécessaire de bien comprendre, c'est que pour devenir ce qu'ils sont, il nous faut déjà nous comporter comme un maître ascensionné en puissance, en approfondissant la purification de notre être et en pratiquant les activités du feu sacré, comme l'est la flamme violette, l'amplification de la flamme du cœur par l'adoration de notre merveilleux soi divin, la présence I am je suis, et ensuite par l'amour des maîtres ascensionnés et des maîtres cosmiques comme Hélios et Vesta, et la haute hiérarchie céleste de l'aimant du grand soleil central. La confirmation de la réalité de la présence, directement par les maîtres immortels, avec des messagers désignés, évite enfin une mauvaise interprétation ou une déformation de la vérité, comme ce fut le cas avec le christianisme et le bouddhisme qui avaient nié l'existence du soi par erreur d'interprétation. De plus, les maîtres nous offrent l'emploi du verbe « I am, je suis », véritable mot de pouvoir divin pour exprimer notre plan divin sur Terre. Ce secret n'avait jamais été dévoilé depuis la fin de l'Atlantide à l'humanité. Je suis lumière. Je suis vérité. Je suis amour divin. Je suis victorieux, courageux. Je suis pureté. Je suis paix. Je suis humble. Voilà le pouvoir divin qu'utilisent eux-mêmes les maîtres à leur niveau, confié à tous les étudiants sincères. Cependant, nous remarquons, hélas, que beaucoup d'étudiants lisent ces discours trop superficiellement et ne les mettent pas assez en pratique dans la vie quotidienne. C'est pourtant essentiel de corriger le moi humain d'abord pour le rendre pleinement heureux, afin qu'ensuite il puisse tomber naturellement. Ne soyez plus emplis de vous-même. Je peux même vous dire que l'éveil et l'amplification de la flamme du cœur est donné par les maîtres directement, que l'élève en soit conscient ou non. Aujourd'hui, comment prendrait place une communauté spirituelle dans les circonstances actuelles? Les conditions seraient les mêmes, avec en plus la pratique de la flamme violette et l'étude de l'enseignement. Mais tout regroupement fixe prolongé serait à risque. Aussi, il serait préférable d'adopter un mode de vie mobile, en caravane ou camping-car par exemple, quitte à ce que ces habitats mobiles soient mis en hivernage durant la période froide et puissent s'éparpiller à la belle saison sur plusieurs terrains d'agrément dans le sud de la France. En conclusion, si vous avez un ego avec une tendance faible, plutôt plaintif et se victimisant, avec des traumatismes, essayez de voir ce qui vous empêche d'atteindre le bonheur. La pratique de la flamme violette va vous nettoyer et vous redonner progressivement confiance en vous-même. Et parallèlement, vous allez vous obliger à développer quelque peu votre créativité. Regardez Léonard de Vinci. Regardez Van Gogh. Écoutez Mozart. Ils n'ont pas eu au départ ou même jamais des conditions de vie faciles. Réalisez que vous avez la même présence qu'eux au-dessus de vous, et ainsi, avec du courage et de la foi, et en plus ce magnifique enseignement, cette magnifique connaissance, et l'assistance des maîtres, vous allez pouvoir exprimer une créativité dans un domaine particulier. Seule une personnalité heureuse et créative est prête pour un éveil divin. Il en est de même avec la sexualité. Ceux qui la refoulent n'ont entrepris aucune communication intérieure avec cette énergie sacrée qui donne la vie. Ils se donnent des apparences de chasteté. Mais où est passée leur énergie de vie? Vibre-t-il l'amour suffisamment? Leur créativité est-elle débordante? Et la pureté de leur vie est-elle évidente? J'affirme que les personnes qui, au contraire, ont une forte sexualité au départ, souvent des artistes ou des personnes avec une personnalité bien construite, le jour où elles sont décidées à se purifier et à faire remonter cette énergie, elles vivront des extases fabuleuses. Si mes quelques paroles vous ont dérangé, c'est bien pour provoquer une brèche dans votre ego spirituel et ses certitudes. Une secousse constructive dans votre chemin, vers votre lumière intérieure. Je n'ai pas l'intention de toujours vous offrir des paroles douces et affables, mais qui passent pourtant par l'amour de ma présence. Recevez tous mes encouragements et ma certitude que vos efforts patients, déterminés et joyeux seront couronnés par une victoire. Je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com.